Bienvenue à chacun, aux habitués, aux visiteurs, à ceux qui sont là pour la première fois. Soyez bénis dans le Seigneur. Je vais vous raconter une belle histoire. Non, c'est plus celle de Guillermo, c'est fini. C'est une histoire qu'on trouve dans la Bible. C'est une histoire qui a marqué, qui continue de marquer. Et je lis avec vous donc Luc chapitre 9, les 17 premiers versets. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendu parler de tout cela, tout ce qui se passait, il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité. D'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Mais Jésus leur dit, donnez-leur manger. Ils répondirent, nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller vous-même acheter des vivres pour ce peuple. En effet, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ainsi donc, avec 5 pains et 2 poissons, Jésus va nourrir une foule immense. Et si on ajoute les femmes et les enfants, on dépasse probablement les 15 000 personnes. C'est le seul miracle qui est rapporté par les 4 évangiles, ce qui souligne son importance capitale. Le Seigneur en révèle la signification dans le long discours qui suit ce repas sur l'herbe qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Et ce miracle est si spectaculaire que les gens le reconnaissent comme le prophète qui devait venir et veulent le faire roi. Nous trouvons ça dans Jean 6, verset 15. Et pour avoir une idée plus précise du déroulement de ce miracle, il est utile et nécessaire de reprendre ce qui est rapporté dans les 4 évangiles. Ça allait bien jusque-là, mais là, c'est un peu plus compliqué maintenant. Oui, une situation problématique. D'abord, une foule à gérer. Comment expliquer la présence de la foule qui suivait Jésus? Luc, dans son évangile, rapporte que Jésus envoie ses disciples en leur donnant la force et le pouvoir sur les démons et pour guérir les malades. Et il les envoie prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et cela faisait du bruit, puisque même Hérode entendit parler de tout ce qui se passait. On constate que non seulement Jésus, mais aussi ses disciples font des miracles, jusqu'à troubler Hérode. Alors, on n'est pas étonné que la foule réagissait et le suivait. Dans l'évangile de Jean, ce miracle de la multiplication des pains et des poissons se situe après une guérison, celle d'un paralytique à la piscine de Bethesda. C'est dans Jean 5. Jésus voit un infirme depuis 38 ans et lui demande s'il veut être guéri. Ben oui, bien sûr, mais voilà, il n'y avait personne pour le plonger dans la piscine lorsque l'ange agitait l'eau. Et pendant qu'il se débrouillait pour y aller malgré tout, un autre passait devant lui. Et comme un seul était guéri, pour lui c'était toujours trop tard. Alors Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Notons que ça s'est passé un jour de sabbat et que ça a été un peu plus compliqué pour Jésus après. Jésus prend donc avec lui ses disciples pour se retirer à Bethsaïda, mais les foules les suivent, ou plutôt suivent Jésus qui les accueille, leur parle du royaume de Dieu et guérit les malades. Matthieu rapporte que Jésus n'est pas d'accord avec eux, puisque les disciples leur disent « Mais il est tard, regarde toute cette foule, il faut les renvoyer. » Non, Jésus n'est pas d'accord. Il leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » J'imagine un peu la tête des disciples. Marc précise que Jésus leur demande d'aller dans la foule à la recherche de nourriture. Marc 6, 38. Il leur dit, allez voir. Allez voir. Imaginez un peu la scène. Vous avez une foule, je ne sais pas, de 15 000 personnes devant vous. Et Jésus leur dit aux disciples, allez voir, allez. C'était un peu compliqué quand même. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle fois une demande impossible que Jésus demande ? Enfin, il trouve 5 pains et 2 poissons. Alors Jean précise que c'est à Philippe que Jésus s'adresse. Jean 6, verset 5. Jésus regarda autour de lui. Et il vit une foule nombreuse venir à lui. Alors, il demande à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» En fait, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même, donc Jésus, savait ce qu'il allait faire. Pourquoi Philippe ? Peut-être simplement parce qu'il était du coin. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André de Pierre. Nous lisons ça dans Jean 1, verset 44. Ville la plus proche de ce rassemblement. Il devait connaître les ressources locales. Mais en réalité, Jésus ne cherchait pas une information. Cette question fait partie de son programme de formation pour ses disciples. Et Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Et puis, les disciples sont réalistes. Même si on allait chercher des pains, 15 000 personnes, vous pensez que les boulangers ont 15 000 baguettes ? Il aurait fallu les prévenir avant. Il aurait fallu qu'ils commande de la farine, etc. Donc les disciples, ils se disent, il y a rien de, c'est pas possible. Il faut les renvoyer. Et voilà. Selon Jean, dans son épître, il fait mention que les pains sont d'orge et les œufs de poisson appartiennent à un jeune garçon. Jean 6, versets 8 et 9. Et que c'est André qui informe Jésus. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» L'incapacité des disciples à répondre à la demande de Jésus « Donnez-leur vous-même à manger » va donner l'occasion à Jésus de montrer sa puissance et sa compassion pour cette foule. Alors Jésus prend les choses en main et il leur dit de s'asseoir. Jésus ordonna à ses disciples de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte et qu'ils s'assoient par rangées de 100 et 50. Luc ne parle que de 50. Matthieu et Jean n'en parlent pas, ils disent simplement qu'ils se sont assis sur l'herbe. Et cette organisation facilitait le comptage et la distribution. On peut penser, selon la coutume, que les hommes s'assirent d'un côté et les femmes et les enfants plus loin. Aucun évangéliste ne relève la réaction des disciples. Je suppose que cet ordre a dû les interpeller quand même. Faites-les asseoir. Pourquoi faire ? Et comment ? Et Jésus, le bon berger, va nourrir son troupeau. Et il accomplit le miracle. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction, comme c'était la coutume chez les Juifs pieux. Puis il rompit le pain, les donna aux disciples, qui les distribuèrent dans la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. 12 paniers, n'est-ce pas un panier par disciple, peut-être, probablement. Alors, donnez-leur vous-même à manger. Imaginez que c'est à vous, à moi, que Jésus s'adresse. On ferait comme les disciples ? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Eh oui, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Luc 16, 27. Et Jésus va multiplier ses 5 pains et ses 2 poissons pour nourrir cette foule immense. Outre Jésus lui-même, l'acteur principal de la situation, n'est-ce pas aussi un autre acteur principal, ce petit garçon ? Imaginez qu'il ne veuille pas donner ses pains. Ben, à quoi ça sert que je vais donner 5 pains pour une foule immense, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis moi, ben, j'aurai plus rien à manger. Mais il le donne. Il le donne. Il le donne à Jésus qui va les multiplier et de quelle manière. Et les disciples, à leur tour, vont participer en organisant les groupes de 50 et de 100, puis en distribuant. Donc chacun a fait sa part. Dieu veut nous utiliser dans son œuvre, comme il a utilisé ce petit garçon qui a donné ce qu'il avait, et puis les disciples qui ont participé à l'organisation. Bien sûr, vous allez dire, mais j'ai pas grand-chose. et notre participation est insignifiante. Elle est insignifiante, mais Dieu, et surtout par rapport à la puissance et à la grandeur de Dieu, se dit, mais Seigneur, tu peux le faire, tu n'as pas besoin de moi. Et pourtant, Dieu veut nous associer à son œuvre. Et c'est important pour lui que nous participions. Il veut que nous fassions notre part. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes des acteurs. Et il fera croître ce que nous aurons semé, prospérer ce que nous aurons apporté, et parfois de manière inattendue. Il se plaît à nous associer à son œuvre merveilleuse. Quand on y réfléchit, ça donne le vertige, non ? Qui sommes-nous, serviteurs inutiles, tellement limités ? Oui, Dieu veut que nous fassions notre part avec les dons que nous avons reçus. Si le mot « don » vous gêne un peu, remplacez-le par « compétence », remplacez-le par « capacité ». Tous, nous avons des ressources, nous avons des compétences et des capacités. Et c'est bien parce que chacun apportera sa contribution que l'œuvre de Dieu avancera. Dans notre Église, j'ai relevé une cinquantaine d'activités. Et c'est comme le corps humain, quand il y a une activité qui ne fonctionne pas bien, ben le reste ne marche pas bien non plus. Faisons notre part là où nous sommes, dans l'Église et ailleurs. Que Dieu nous y aide par son esprit. Initialement, j'avais prévu de méditer autre chose. J'avais bien avancé sur cette prédication. Et puis, la semaine dernière, Véronique et moi étions à Lunel, une petite église. Et cette petite église est en difficulté. Je vous donne brièvement un point de route sur cette petite église, pour surtout les personnes qui ne connaissent pas cette église. Donc c'est une petite église à Lunel qui se situe entre Nîmes et Montpellier, où ils sont maintenant peu nombreux, moins d'une quinzaine, et qui se retrouvent sans pasteur. De plus, les frères et sœurs ont une moyenne d'âge élevée, et donc l'avenir n'est pas très, 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 très rose, très brillant. Alain Combé, le pasteur actuel, ou l'ex-pasteur, parce que donc ça faisait plusieurs années qu'il souhaitait s'arrêter, mais faute de remplaçant, il était toujours là. Donc à 78 ans, il a quand même le droit de partir. Donc c'est ce qu'il a fait au bout d'un certain temps. Donc il a démissionné à la fois comme pasteur et comme président, ce qui fait qu'on se retrouve en difficulté. Donc il a demandé l'aide à l'association en demandant effectivement qu'on puisse trouver une solution, qu'il nous envoie un pasteur, un implanteur. Et puis, personne n'est venu. Le 5 mai dernier, nous avions une réunion avec nos amis de Lunel, de Nîmes et de Montpellier. Nîmes était représenté par Pierre et moi-même. Et l'idée était de dire, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête ? Et nous avons dit non. On va les aider, mais on ne s'arrête pas. Donc, nous avons aujourd'hui un nouvel interlocuteur pour l'association, la personne de Steve Vauck, qui est le pasteur de Château-Arnoux. Donc, Alain Combé a donné sa démission. Il va repartir près de ses enfants dans la région de Grenoble. Certains dossiers étaient restés en instance, faute de président, et il était urgent de désigner un nouveau bureau pour les traiter. C'est ce que nous avons fait donc dimanche dernier avec une assemblée générale extraordinaire. Le nouveau président est maintenant Jean-Marc Ossé, La trésorière, c'est toujours Laurence Beau. Et la secrétaire, maintenant, c'est Béatrix Nouis, que plusieurs connaissent puisqu'elle était dans notre église également. Donc Véronique et moi-même avons participé à cet AG et nous représentions notre église en apportant notre soutien tel que nous nous étions engagés le 7 mai. La rentrée en septembre avec la nouvelle équipe sera un défi, celui de faire en sorte que cette église soit toujours présente à Lunel et même progresse avec l'aide de Dieu. Dieu a été fidèle depuis sa création. Avec Jean-Marc Ossé, donc en 1988, elle s'appelait alors la Maison de l'Évangile. Flavien Solinas, ici présent, ancien de l'église de Nîmes, l'a rejoint en 1994. Alain Combé les a rejoints en 2004, puis un couple pastoral brésilien en 2012, mais qui ne sont pas restés. Dieu a pourvu pendant toutes ces années et les a bénis. Le 7 mai dernier, avec Pierre, nous n'avons pas accepté d'aller vers la fermeture de cette église, dont la moitié des membres sont d'anciens Nîmois. Église pour laquelle, d'ailleurs, nous-mêmes étions investis par différentes manières dans le passé. Nous nous remettons à notre Dieu pour faire le mille supplémentaire et nous lui demandons de subvenir aux besoins de nos amis. Ce qui est impossible à nos yeux est possible pour notre Dieu. Nous aidons nos amis dans leur nouveau fonctionnement et dans les démarches administratives. Ils m'ont chargé de transmettre leurs salutations, ce que je fais maintenant. Et en particulier Jean-Marc, Laurence et Béatrix remercient chaleureusement Chiffon pour son aide précieuse. Vous savez, comme elle est compétente dans les dossiers, elle a bien aidé Lunel aussi. Prions pour nos amis et leur église. Prions que Dieu envoie un nouveau pasteur ou une autre solution qu'il choisira selon sa volonté. Si vous priez, vous faites votre part. Conclusion. Jésus s'est servi de la générosité d'un petit garçon qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons pour accomplir un miracle extraordinaire. J'imagine après la joie de ce petit garçon. On ne connaît pas son nom. Mais quand il a vu que ses pains étaient multipliés par Jésus pour une foule immense, qu'a-t-il ressenti ? Là où il nous a placés, apportons à Dieu ce que nous avons pour que notre impossible devienne possible par sa grâce et sa puissance, pour que son œuvre croisse et que sa volonté soit faite. Que Dieu nous aide, nous fortifie, nous renouvelle et renouvelle notre intelligence pour accomplir sa volonté. Amen.